Nous allons lire dans Romains au chapitre 1, versets 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu. Comment cette puissance se manifeste? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc je n'ai point honte de l'Évangile, parce que la bonté de Dieu, la puissance de Dieu est manifeste dans le message de l'Évangile, parce que dans ce message, il est dit qu'on peut être juste par la foi. Et celui qui parle ainsi, c'est quelqu'un qui est issu d'une autre logique. Donc avant l'Évangile, c'était la logique de la loi. La loi, c'était quoi? C'était un ensemble de commandements que Dieu avait donné, de sorte que quiconque est capable d'accomplir, d'obéir à cet ensemble de commandements, soit considéré comme juste. Donc on est juste lorsqu'on suit la logique de la loi, quand nous pouvons accomplir tous les commandements de Dieu. Et ce monsieur qu'on appelle Paul faisait partie des maîtres de la loi, des gens qui vivaient dans cette logique-là et qui connaissaient bien cette façon de faire les choses. Et Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, lui qui a connu la loi. Pourquoi? Parce que il voit bien, il reconnaît bien que la loi ne lui a pas apporté le salut. La loi l'a amené à devenir orgueilleux. La loi l'a amené à se décourager parce que aucun humain, par ses propres efforts, ne peut accomplir la loi de Dieu. Et Paul, conscient de ça, et éclairé par rapport à l'Évangile, il dit, mais pourquoi j'aurais honte de ceux qui sauvent, du message qui sauve par la foi? La foi, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est petit, qu'on a échoué, et dépendre de Dieu. C'est ça la foi. Mais dépendre de Dieu en croyant qu'il est tout puissant, pas dépendre de lui pour dépendre, comme un enfant dépend de sa mère, parce qu'il n'a pas le choix. Mais cette fois-ci, nous dépendons de Dieu parce que nous croyons qu'il est tout puissant. Nous croyons qu'il est amour. Nous croyons qu'il est bon. Nous croyons qu'il est vérité. Nous croyons, pour finir, qu'il nous a réservé l'éternité au paradis avec lui. Quand on croit en tout ça, on est dans la foi. Et j'ai oublié l'élément important qui se trouve dans son amour, croire que par le sacrifice de Jésus à la croix, nos péchés peuvent être pardonnés si nous nous repentons. Alors quand Paul réalise tout ça, il dit, mais l'Évangile, c'est comme si tu annonçais à quelqu'un qu'il a gagné 5 millions d'euros ou de dollars. L'Évangile, c'est comme si tu annonçais à quelqu'un qu'il devient milliardaire. Pourquoi j'aurais honte d'annoncer une si grande nouvelle? Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que ça annonce le salut par la foi. Et il dit, d'ailleurs, dans les Écritures que nous utilisions autrefois, c'est écrit dans Habacouc 2:4, le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que c'est la loi qui va donner la victoire au juste, mais c'est la foi. Donc Dieu, quand il a donné la loi, il voulait démontrer à l'homme qu'il est incapable d'être comme lui, Dieu. Tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tout cela était donné pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Donc quand il va essayer d'appliquer tout ça et qu'il va échouer, il va se rendre compte que son état n'est pas bon. En lui, il y a une puissance qu'on appelle la puissance du péché qui le rend incapable d'accomplir la loi de Dieu. De sorte que devant cette réalité, il puisse dire « Dieu, sauve-moi !» Il puisse crier à Dieu qui est tout-puissant, qui est amour et qui certifie qu'il peut sauver par la foi. Parce que le message de la foi, Paul ne pouvait pas l'avoir clairement dans les Écritures qu'il avait avant. C'est quand il entend l'Évangile, quand il reçoit l'Évangile, il se rend compte que l'échec du salut par la loi avait trouvé une solution dans l'Évangile. Donc on pouvait être sauvé, pas parce qu'on a fait de bonnes œuvres, mais parce que Dieu nous pardonne dans son amour et puisque nous avons la foi en lui. C'est pourquoi Paul était content. Il était content, il disait, mais finalement, notre échec a trouvé une solution. C'est la foi en Dieu. Mais curieusement, tout le monde n'est pas content comme Paul. Curieusement, les gens continuent à être inquiets, tristes et malhonnêtes, même dans les milieux chrétiens. Paul conclut le verset 17 en disant, parce que c'est écrit au verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Donc, Paul nous donne un enseignement. Le juste vivra par la foi. Mais dans Deutéronome 6, on dit que quand tu pratiques la loi, tu vivras par elle. Par cette pratique-là, tu vivras. Mais maintenant, puisque personne n'est réussi à pratiquer la loi, donc qu'est-ce qu'il y a comme conséquence dans la vie des gens? C'est la mort. Maintenant, Paul reçoit la révélation que maintenant, par la foi, en réalité, il est écrit dans Habacouc 2:4, bien plus tard que Deutéronome 6, c'est écrit que le juste vivra par la foi. Donc, il y avait un but pour lequel on a donné la loi, même si on a dit que tu vivras par elle. C'est vrai, c'est la vérité. Quand tu es saint comme Dieu, c'est comme ça que tu as la vie. Mais en réalité, puisqu'aucun homme ne peut vivre par sa propre justice, Dieu a trouvé la solution. Il faut vivre maintenant par la foi en Dieu lui-même, par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, par la foi que Dieu ne se trompe pas. Il est bon, il est vérité, il est amour, sa parole est vérité. Quand on a foi en tout ça, c'est là que nous recevons la vraie vie. Parce que pour Dieu, quelqu'un qui est immensément riche n'est pas forcément riche à ses yeux. Il est pauvre. Dans plusieurs versets bibliques, on explique comment les gens qui se croient vivants, en réalité, ils sont morts. Parce que pour Dieu, il voit tout. Il voit tout dans son ensemble. Aujourd'hui, tu peux être millionnaire et dans 30 ans, tu deviens très pauvre. Beaucoup d'acteurs, autrefois, qui ont eu du succès, ils sont morts pauvres. Beaucoup de musiciens. Il y a le grand champion du monde, Joe Louis, l'Américain, le plus grand boxeur de poids lourd. Il est mort portier dans un cinéma. Portier. Un homme qui a brassé des millions de dollars à l'époque, dans les années 30, 40, 50, mais qui meurt portier d'un cinéma. Donc pour Dieu, tout ce que quelqu'un peut manifester, c'est rien quand Dieu voit dans l'éternité. C'est pourquoi il dit à celui qui a la foi, toi tu es vivant parce que tu t'accroches à moi et le jour de ta mort, moi je te donne la vie. Tu es vivant. C'est écrit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas seulement une vie éternelle après la mort, une vie même actuelle, où il y a le bonheur, la paix, la sécurité du cœur, la tranquillité. C'est ça la vraie vie. Parce qu'à quoi ça sert d'être millionnaire et de chercher à se suicider? Est-ce que c'est la vraie vie? Ce n'est pas la vraie vie. À quoi ça sert d'être un roi et de tuer les gens pour rester roi? Est-ce que ça, c'est la vraie vie? Ce n'est pas la vie, ça. On n'est pas bien. Et après avoir tué les gens, tu es obligé de te droguer pour accepter cette situation-là. Est-ce que ça, c'est la vie? Ce n'est pas la vie. À quoi ça sert? Comme nous voyons dans une publicité à la télé, les publicités de... C'est quoi un jeu là qu'on appelle Vegas? Quelqu'un qui a une limousine de 15 mètres, il voit l'autre qui a une limousine de 20 mètres, il veut en acheter de 30 mètres. Donc, tu peux être riche, mais tu es jaloux. Ça t'enlève la joie. Parce que dès que tu vas voir quelqu'un, même il a quelque chose qui est moins cher que ce que tu as, mais le fait que ça va bien avec lui, tu vas encore envier. Donc tu n'es pas bien, tu as tout ce que tu veux, ce qu'un homme voudrait, mais tu n'es pas bien, donc ce n'est pas la vie. Pour Dieu, tout ça, ce n'est pas la vie. La vraie vie, c'est la paix, la tranquillité. Tu peux être portier, tu peux être sentinelle, tu peux être vigile, tu peux être politicien, mais tu peux être riche aussi. La vraie paix vient du fait que Dieu s'occupe de toi, que tu dors sans t'inquiéter du lendemain parce que Dieu s'en occupe. La vraie paix, c'est psaume 112, verset 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu sais que Dieu s'occupe de ça. Et tu es tranquille. C'est ça la vraie paix, c'est ça la vraie vie. Et Dieu dit dans Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui va maintenir le juste? C'est sa foi en Dieu. Ce n'est pas l'accomplissement des commandements, mais c'est sa foi en Dieu. Même si la conséquence de sa foi en Dieu, c'est qu'il va appliquer les commandements. Quand il a foi en Dieu, il tire sa source de vie en Dieu, et il aura la capacité d'appliquer les commandements de Dieu. Alors que s'il se confie en lui-même, il se fie à ses propres capacités, il finira par mourir, parce que c'est écrit, le juste vivra par la foi. Paul explique que ceux qui ont essayé de vivre par la loi ont échoué. Maintenant, il nous est donné une grâce exceptionnelle. La foi peut nous sauver. La foi peut nous faire vivre. C'est ainsi qu'à la croix, le monsieur a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, il a reçu la vie par la foi en Jésus. Parce qu'après ça, il n'a pas eu à se comporter, faire des œuvres extraordinaires. Il a juste eu foi en Jésus et on lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, il reçoit la vie. Je veux parler du fait que une des raisons principale qui amène les gens à chuter dans la marche chrétienne, à vivre malheureux, même s'ils ont Christ en apparence, c'est le problème de la foi. La foi va, quand on manque la foi, on meurt parce qu'il est bien écrit, le juste vivra par la foi. C'est quand on manque la foi qu'on finit par être jaloux. C'est quand on manque la foi qu'on finit par se produire, se constituer des ennemis. Parce que par manque de foi, nous pensons que des humains peuvent gêner notre parcours et ça devient nos ennemis. C'est par manque de foi qu'on finira par désobéir sévèrement à Dieu, parce que les petites désobéissances vont déjà s'installer. Ensuite, ça va devenir la désobéissance sévère. C'est par manque de foi que beaucoup vont aller peut-être au ciel, mais ils n'auraient pas accompli leur mission sur terre. Il est écrit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que Dieu a simplifié les choses par l'évangile. On connaît le chant où on dit, maintenant le faible dit, je suis fort. C'est vrai, c'est l'évangile qui permet que le faible dise qu'il est fort. Avant l'évangile, c'était les forts qui étaient forts. Mais avec l'évangile, le faible devient fort. Jésus a dit, les prostituées vous précéderont au ciel. Parce qu'avec l'évangile, ce n'est plus une question de performance personnelle, c'est une question de foi en Jésus, le grand performeur. Celui qui a pu vaincre le péché, qui a dit dans Jean 16, 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand tu crois en lui, il prend ta vie en charge et tu reçois la vraie vie, sa vie à lui. Mais tout cela n'est possible que lorsqu'on a foi en lui. C'est quelque chose qui faisait sauter de joie Paul et qui devrait faire sauter de joie tout chrétien de se dire, mais tiens, c'est vrai que maintenant c'est la foi qui fait la différence. Et Jésus a dit dans un autre passage, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à une montagne, déplace-toi. Bien-aimé, c'est vrai que David a été appelé par Dieu. Mais ne nous cachons pas derrière l'histoire d'appel pour dire, si un tel fait des choses, c'est parce qu'il est appelé. Moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas appelé. Bien-aimé, quand on est tous enfants dans un palais royal, parmi ces enfants, suivez un peu les histoires des gens du pays qui fait succès là, Qatar ou Arabie Saoudite, vous allez voir, il y a beaucoup de princes. Tous ils sont riches, mais chacun a son appel. Chacun, il y en a qui sont forts dans les télécommunications, d'autres sont forts dans le commerce, d'autres sont forts. Mais même si chacun est fort dans quelque chose de différent, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont des grands moyens. D'où viennent ces moyens? Ça vient du fait que c'est des princes. Aujourd'hui, on se cache derrière le fait que mais c'est l'appel d'un tel, c'est l'appel. Oui, l'appel nous différencie, mais l'appel ne doit pas faire donner l'impression que Dieu est plus avec un tel plutôt qu'avec un tel autre. Parce que nous tous, nous sommes les enfants du même roi. Nous sommes dans la même famille royale. Donc même si un tel va faire les maths, l'autre va faire le droit, l'autre, dans tout ce qu'on fait, celui qui fait le droit, après ses études, il va avoir un cabinet grand parce que son père est roi. Celui qui a fait l'électronique, à la fin de ses études, il a les moyens pour commencer à faire une usine et construire des téléphones, pour fabriquer des téléphones. Donc, tous vont bénéficier de l'héritage. Mais David, qu'est-ce qui fait qu'il bat Goliath? Nulle part, on voit qu'on a donné l'ordre exprès à David d'aller battre Goliath. Donc David n'était pas au courant. La preuve, il a, quand il est arrivé, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On lui dit, mais voilà ce que dit cet homme-là. Lui-même, il entend. Il dit, mais tiens, il manque de respect à l'armée de l'Éternel. Donc David a décidé sur place de combattre Goliath. Ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu dans un songe ou qu'on lui a dit par un prophète. Mais sur place, la foi qu'il avait en Dieu l'empêcher de retourner chez lui sans régler le problème. Pour lui, retourner chez lui, c'était une sorte de mort. C'est pourquoi c'est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est quelqu'un qui va faire des exploits, pas parce qu'on lui a dit par Dieu de faire ceci, cela, mais parce que sa foi en Dieu l'empêche d'envisager la défaite. Sa foi en Dieu l'empêche d'envisager l'arrêt. Il doit toujours avancer. Le juste vivra par la foi. S'il y a beaucoup de morts spirituelles, beaucoup de conflits, beaucoup d'idolâtrie, parce qu'on m'a montré même avant que je prêche là une photo d'un monsieur habillé vraiment en féticheur, en rouge, il était avec sur un fauteuil rouge, quelque part, il est assis, les gens, un prétendu pasteur congolais, il est assis et les gens sont en train de venir lui déposer des enveloppes. Voilà où il était assis. Vraiment, on sent que c'est du fétichisme. Mais les gens viennent déposer. Parce que les gens n'ont plus foi en Dieu. Ils n'ont plus foi en la parole de Dieu. Donc, ils préfèrent suivre des humains. Ils n'ont plus foi en Dieu. Qu'est-ce qui amène tous ces désordres? C'est le manque de foi en Dieu. Parce que quelqu'un qui a foi en Dieu n'ira pas consulter un voyant. Parce que ces gens-là sont des féticheurs. Quand on était païens, les féticheurs se comportaient comme ces gens-là. Habillés d'une manière spéciale. Vénérés par les humains. Les vrais serviteurs qu'on a connus autrefois ne se comportaient pas comme ça. Mais malgré ça, les gens y vont parce qu'ils n'ont plus la foi en Dieu. Celui qui a la foi en Dieu ne peut plus faire ça, ne peut pas faire ça. Il sait que Dieu ne se manifeste pas comme ça. Il sait que Dieu s'est manifesté en son Fils Jésus, ce n'était pas comme ça. Pourquoi les gens tombent dans les pièges? Ah, mais séminaire des miracles, machin, truc. Allez, ils vont en groupe parce qu'ils n'ont plus foi que la parole de Dieu est la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit quoi? Il est écrit, si vous entendez que je suis à gauche, je suis à droite, n'y allez pas. C'est une instruction qui est dans la parole. Mais pourquoi les gens vont quand même? Parce qu'ils ne lisent plus cette instruction. La parole de Dieu pour eux est devenue quelque chose de sec. Ils préfèrent ceux qui bougent, ceux qui agitent. Les gens ont perdu la foi. Mon avertissement, c'est qu'il ne faut pas que ça t'arrive. Ne perds pas la foi en Dieu. Mais pour que tu ne perdes pas la foi, il faut que tu marches par la foi. Parce que la vie produit la vie. Et la non-vie produit la mort. Quand tu ne vas pas marcher par la foi, forcément, tu ne vas pas vivre les bénédictions que Dieu a prévues sur le chemin de la foi. Et petit à petit peut naître en toi l'envie d'essayer autre chose que ce qui est écrit. Petit à petit peut naître en toi la jalousie de voir qu'un tel semble réussir. Petit à petit va naître en toi la négligence de la Bible. L'attachement à la sécurité humaine. Et la fin de tout ça, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Car c'est dit clairement, le juste vivra par la foi. Quand le juste n'utilise plus la foi, il va mourir. C'est un avertissement. Il va mourir. Il faut utiliser la foi chaque jour. Quand tu n'utilises pas, tu es semblable à quelqu'un qui ne mange plus. Tu es semblable à quelqu'un qui ne respire plus. Ça finit par la mort. Ça commence par les méthodes. Je vais commencer à prier à telle heure et à finir à telle heure. Ça commence par il me faut toucher tel objet en priant. Voilà, ça commence comme ça. Jusqu'au jour où tu iras voir ce que tout le monde considère que c'est un magicien, mais puisqu'il a touché la Bible, tu vas justifier ça en disant qu'il a touché la Bible. Mais en réalité, tu as tellement perdu foi en Dieu que tu essayes n'importe quoi. Et c'est là la mort spirituelle. Nous devons marcher par la foi. Nous devons être contents comme Paul. Mais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas contents? Parce que la foi fait de nous tous des personnes égales. Il n'y a pas de plus grand. Puisque quand tu as la foi, le faible devient fort. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment être les plus forts, les plus beaux, les plus grands. Ils aiment avoir des titres. Mais avec la foi, David n'avait pas de titre officiel. C'était un titre qu'il avait, mais ce n'était pas officiel. Mais la foi a fait sortir clairement son titre. Si tu négliges bien aimé la foi, tu finiras mal. Nous allons lire 1 Samuel 13. Beaucoup de problèmes des chrétiens sont dus au fait qu'ils n'usent pas de la foi. Quand on dit de la foi en la Bible, hein, de la foi en Dieu, de la foi en la parole. Et vous savez, avec ça, ça finit comment ? Tu vas te constituer ton propre Dieu en qui tu vas avoir la foi. On voit à plusieurs reprises, Israël n'avait plus foi en Dieu, mais il va avoir foi en Baal. Ça finit toujours comme ça. Les gens pensent qu'en négligeant la foi en Dieu, ils vont garder la foi en Dieu. Non. Quand tu négliges la foi dans le véritable Seigneur, dans le véritable Dieu, dans la véritable parole, tu te créeras ta parole. Tu ne t'en rendras pas compte, puisque tu te dis toujours chrétien. Tu ne t'en rendras pas compte, puisque la vie continue. Tu dors, tu te réveilles. Tu crois qu'il n'y a rien ne se passe dans ta vie, mais tu es en train de mourir. Mais parce que c'est toi qui meurs, tu ne le sais pas. C'est toute la différence. Mais un bon observateur va savoir que tu es en train de mourir. Mais toi-même, puisque tu te lèves, tu manges, tu achètes certaines choses, tu crois que la vie continue. Mais en réalité, tu meurs. Parfois, il faut 20 ans, une grosse secousse qui va te faire rendre compte que ça fait 20 ans que tu es en train de mourir. Tu ne t'en rendais pas compte. Parce que ton orgueil t'a aveuglé. Parce que la vie continue. Et troisièmement, parce que tu t'es constitué ton propre Dieu. Donc tu continues à croire en quelque chose, mais ce n'était pas l'Éternel. Ce n'était pas le Dieu de la parole. On n'est pas les premiers. Il y a des gens qui nous ont précédés dans ces choses-là. Israël, c'était comme ça. Il ne croit pas en Dieu, mais il va croire en des statues. La foi était toujours là, mais en autre chose. Quand la foi diminue en Dieu, ça va dans autre chose, qu'on peut même se constituer. Les gens avaient même des théraphimes, c'était des petits dieux qu'ils avaient dans leur maison. Parce que dans tout ça, ça aboutit à quoi ? En la foi, en toi-même. C'est toi-même qui décides qui est Dieu. Ce n'est plus Dieu qui s'impose pour dire c'est moi qui suis Dieu, mais c'est toi qui décides qui est Dieu. Mais tu finiras mal parce que tu n'es qu'un mortel. Il est écrit dans 1 Samuel 13, au verset 8. Il attendit 7 jours. Samuel a dit à Saül d'attendre 7 jours avant d'aller en guerre. Donc, afin que le 7e jour, Samuel vienne faire des sacrifices d'adoration, d'intercession à Dieu. Et ensuite, la guerre peut commencer. Dieu donnera la victoire aux enfants d'Israël. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Maintenant, la réalité humaine vient. On lui dit d'attendre 7 jours. Mais le 7e jour, les gens commencent à dire, mais cette guerre va commencer quand ? Chacun commence à rentrer dans sa famille. Mais pourquoi lui, il attendait 7 jours ? Posons-nous la question. Il attendait 7 jours, pourquoi ? Pour que Samuel vienne faire le sacrifice. Mais pourquoi que Samuel vienne faire le sacrifice ? Mais le sacrifice est fait à Dieu. Le but, c'est quoi ? C'est que Dieu donne la victoire. Maintenant, ça fait 7 jours. On arrive le 7e jour, Samuel n'arrive pas. Lui, il veut se lancer à la guerre, malgré le fait que Samuel ne fait pas le sacrifice. Donc, il s'est dit quoi ? Sans les gens là, parce que pourquoi il veut se lancer ? Parce que les gens sont en train de rentrer chez eux. Il se dit non, si je ne commence pas la guerre maintenant, et ils vont s'en aller. Et on va se retrouver sans soldats. Comment on va gagner? C'est comme ça que la foi est détruite. Vous savez, la foi n'est pas détruite parce que Satan vient te dire, change de Dieu. Parce que Satan vient te dire, change de façon. Non, la foi commence à être détruite par le visible. La foi, c'est l'opposé du visible. La foi ne va pas avec le rationnel. Le rationnel, c'est quoi ? C'est que l'homme peut déduire, ce que l'homme peut cerner, comprendre et circonscrire, c'est-à-dire dominer en quelque sorte, une science que l'homme domine, l'homme saisit. La foi ne va pas avec ça, puisque la foi dépend du Dieu Tout-Puissant qui a des règles qui dépassent les règles humaines. Donc, à partir de ce moment, la foi ne peut pas aller ensemble, aller en concordance, en harmonie avec le raisonnement, avec la rationalité. Au contraire, souvent, il va y avoir contradiction parce que Dieu étant tout puissant, il fait des choses qui dépassent l'homme. Et le verset qui m'étonne le plus, c'est Éphésiens 3, 20. Vous savez que nous, les humains, nous avons une grande imagination. Il y a des gens comme Jules Verne qui avaient imaginé beaucoup de choses que les gens ont inventées plus tard. Quand vous lisez les romans, vous lisez certains livres, il y a des gens qui imaginent. L'homme est très fort côté imagination, mais Dieu dit dans Éphésiens 3, 20 qu'il peut agir au-delà même de ce que nous imaginons. C'est-à-dire que même notre imagination est libre parce que tu peux t'imaginer en train de voler comme un oiseau, tu peux t'imaginer aller aux États-Unis en 10 secondes, mais il est écrit que Dieu, il peut faire au-delà de ce que tu imagines même. Mais donc sa capacité est terrible. Saül attendait Samuel puisqu'il considérait que c'était... C'est là aussi la foi. La foi, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi les voies autorisées par Dieu. Dieu a décidé que c'est par Samuel que lui, il va agir. Maintenant, on va voir la suite. Saül, voyant que les gens s'en vont, il se dit, mais c'est par les soldats que Dieu allait agir. Ah, maintenant, il faut qu'on fasse la guerre maintenant. Maintenant, il se dit, mais on va faire la guerre maintenant, Samuel n'est pas toujours là. Alors, moi-même, je vais devenir sacrificateur. Et c'est là qu'il sort de la parole de Dieu. Tout ça à cause du visible, à cause de la rationalité. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Samuel lui dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais les gens s'en allaient, tu voulais que je fasse quoi? Mais Samuel dit lui-même, mais c'est Dieu qui t'a fait roi. Il t'a donné une instruction, il fallait obéir. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux 11? Je rappelle souvent ce passage parce que ça nous permet de bien comprendre c'est quoi la foi. Hébreux 11, c'est écrit au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce verset est très important. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui nous enlève la foi ? Je viens de le dire, c'est le visible, c'est la rationalité. Donc, tu t'imagines pas d'où viendra les 5000 euros dont tu as besoin pour faire telle chose. De ton salaire, c'est impossible. Tu n'as aucun oncle en Amérique qui puisse t'envoyer cet argent-là. Donc, quand tu as tout imaginé, il n'y a rien, tu te dis, je vais céder. Parce que souvent, on tombe dans l'anti-foi parce qu'on dit, je n'ai pas le choix. Dieu n'a pas donné. Or, tu n'as pas attendu, mais toi tu dis, Dieu n'a pas donné, donc je cède. Dieu n'a pas fait sa part, donc moi, je vais désobéir. Mais on ne dit pas que je vais désobéir, on s'invente une révélation. Saül s'est inventé une révélation en disant, ah, je me suis fait violence, moi-même, j'ai voulu implorer l'Éternel, j'ai fait le sacrifice. Mais non, ça, ce n'est pas la procédure. La procédure, c'est Samuel qui doit faire le sacrifice. Même si tu fais quelque chose de semblable, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Vous savez, Jésus a été clair avec la femme samaritaine. Il a dit, ce n'est ni au temple, ni à la montagne, c'est un esprit en vérité. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut, que c'est ça que Dieu veut. Non. Oui, tu fais quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas ça. Alors, ce 11.3 qu'on vient de lire, ça nous dit quoi? Ça nous dit, réfléchis. Puisque toi-même, l'arbre, le soleil, le diamant, a été créé juste parce que Dieu a parlé. De l'invisible, c'est sorti. Mais pourquoi ne pas croire que pour toute chose, le processus va se répéter? Ce verset est très important, 11.3. C'est par la foi que nous croyons que les choses que nous voyons viennent des choses invisibles. Dieu est en train de nous dire, mais c'est comme ça que ça va se répéter toute votre vie si vous marchez par la foi. Les choses invisibles produiront les choses visibles. Donc, ça nous enlève toute excuse. Toute excuse est enlevée aux gens qui disent, mais je ne vois pas. Mais dis, mais oui, mais comme avant aussi, il n'y avait rien. Moi, j'ai créé. Donc, ce que tu ne vois pas là, je peux créer encore. Donc, tous ceux qui, sous prétexte de réalité visible, sous prétexte de « j'ai beaucoup attendu », sous prétexte de « mais je ne vois pas comment ça va se faire ». D'ailleurs, Zacharie est devenu muet à cause de ça. Quand l'ange a dit à Marie qu'elle aura un enfant, Marie a dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais Zacharie a dit « mais c'est impossible, je suis trop vieux ». On lui a dit, ben, tu vas devenir muet, même si Dieu va quand même agir. Muet, ça veut dire, c'est, tu n'es pas digne de réciter ma parole puisque tu ne crois pas en cette parole. Donc, Saül, voyant que les gens s'en vont, il se dit, mais on va se battre comment? Une guerre, il faut des soldats. Pour une guerre, il faut des soldats. Mais Hébreux 11.3 nous dit les choses visibles. Viennent des choses invisibles. Donc, attachons-nous aux choses invisibles. Attachons-nous à Dieu. Donc, qu'est-ce que Saül fait? Il s'invente sa religion. Ne vous en faites pas. La multitude des religions est due au fait que les gens, n'étant pas prêts à croire au Dieu invisible, ils vont s'inventer leur religion. Remarquez qu'à part quand les gens ne sont pas dans la vérité de la parole, ils sont dans quelque chose qui est idolâtre. L'islam, ils suivent Mohamed. Dans l'idolâtrie, ce n'est pas dans l'invisible, dans l'idolâtrie. Donc ils le suivent tel qu'il a fait, ils suivent tout ce qu'il a dit, alors que c'est un homme qui a péché comme tout le monde, qui a tué, qui a eu 9 femmes, tout ça. Mais ils suivent. Les mormons, ils vont suivre Joseph Smith bêtement, alors qu'il est mort d'un accident, comme tout le monde. Et beaucoup de gens meurent. Donc, dans toutes les religions, il y a une forme, il y a d'idolâtrie à un être mortel. Pourquoi? Parce que les gens refusent le Dieu immortel, invisible. Ils ne veulent pas vivre par la foi. Et cette même chute se retrouve au milieu des gens qui se disent dans le christianisme. Comment toute une foule de gens, un monsieur est assis. Il vous dit qu'il est pasteur. Il est assis sur ce fauteuil-là rouge. Il y a une moquette rouge devant lui, à côté ou devant. Et vous venez avec vos enveloppes d'argent déposées à ses pieds. Mais dans la Bible, vous n'avez jamais vu Jésus se comporter comme ça. Ni Paul. Même d'ailleurs dans Exode 23, c'est écrit qu'il ne faut pas, attention aux sacrificateurs, il ne faut pas qu'ils reçoivent les cadeaux. Donc il y a toutes sortes de versets dans la Bible qui découragent une telle attitude. Pourquoi ces gens-là font ça? Parce qu'ils ne croient plus en la parole. Pourquoi il y a la jalousie au milieu des chrétiens? Ils ne croient plus en la parole. Parce que si quelqu'un croit, Joël 3:10 va s'accomplir pour lui. Donc, c'est-à-dire que le faible dise qu'il est fort. Il va se sentir fort. comme une dame, on lui dit, il dit, mais je n'ai rien à nourrir. Je n'ai rien à donner à mon fils pour qu'il soit nourri. Et je n'ai rien. Mais la voix du Saint-Esprit lui dit, mais prie. Mais comme autrefois, on priait souvent en écrivant. Elle écrit sa prière sur un papier. Il dit, mais j'ai prié. Mais sans que oui, mais elle doit faire le pas de la foi. Elle a écrit la prière, maintenant elle doit avancer. Elle prend la prière sur son papier. Elle va chez le marchand de légumes, marchand de biens, de produits. Elle arrive là, comme à l'époque et aujourd'hui même dans certains pays comme le Maroc, on vend toujours en utilisant des balances avec des poids. Alors, arrivée à son tour devant le marchand, elle donne le papier. Le marchand dit, mais je vois une liste de choses. Mais avec une prière, mais qu'est-ce qu'une prière va faire pour que tu aies toutes ces choses-là, pour que je te donne ces choses? Est-ce que cette prière-là, il tient le papier, est-ce que cette prière-là a du poids? La dame ne répond pas. Et le marchand dit, tu vas voir. Il met la prière sur un plateau, le papier sur un plateau. Et sur les autres plateaux, il commence à mettre les produits pour dire, tu vas voir que ta prière n'a même pas du poids. Mais il commence à mettre les produits, c'est la prière qui gagne toujours. Le papier gagne, bat les pommes de terre, tout ce qu'il mettait, le papier restait toujours supérieur, beaucoup plus fort. Alors, il a été obligé de donner un gros sac, puisque tout ce qu'il mettait, ça, le papier dominait sur ça. Il a été obligé de donner tout ça à la dame. Mais après, il s'est rendu compte que le mécanisme s'était coincé. Mais qui a coincé le mécanisme? Ben, c'est Dieu. Mais qui domine dans tout ça? C'est la prière de la foi. Le faible devient fort. Avec la prière, avec la foi, il n'y a plus de grand. Tout le monde est fort. C'est ce que les hommes n'aiment pas. Les hommes aiment qu'il y ait des premiers, des grands, des voilà. Ils n'aiment pas que nous tous on soit pareils. Ils n'aiment pas. C'est pourquoi ils n'aiment pas notre Dieu. Vous savez, les gens iront en enfer par méchanceté, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils trouvent qu'il est amour, il est bon. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent qu'il y ait des champions, ils veulent qu'il y ait des Usain Bolt, des machins, trucs. Ils ne veulent pas que tout le monde court à la même vitesse. Il y a des gens qui n'aiment pas cette vie-là, où tout le monde est pareil. Ils n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas cette vie-là où il doit dépendre de Dieu. Il veut que ça vienne de ses propres forces. Il veut se sentir fort. Or, il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, dans la dépendance au Dieu Tout-Puissant. Et beaucoup n'aiment pas ça. On a proposé ça à Saül. Saül a dit non. Si j'attends, je vais perdre la guerre. Et dans notre vie de tous les jours, Dieu nous propose la foi. Nous refusons. Nous refusons. Je nous préviens, ça finira mal. Nous refusons. Dans la vie de tous les jours, à un moment, il te dit, non, cet argent-là, laisse ça partir. Non, tu insistes. Telle chose, laisse tomber, je m'en occupe. Tu insistes. Tu continues à travailler, à faire des combines, parce que malgré le fait que tu fasses ces combines, la vie continue. C'est ça l'erreur. Vous savez, après cette bêtise de Saül, qui a gagné la guerre? C'est Israël toujours qui a gagné, malgré sa bêtise. Au fait, l'erreur que nous commettons, c'est que la vie continue avec certaines petites victoires encore, avec certaines choses qui marchent encore. On oublie qu'on est dans la phase de la mort. On ne se rend pas compte, plutôt, on n'oublie pas. On ne se rend pas compte. Mais qui a gagné? C'est Israël. Mais Israël, ce n'est pas que Saül, c'est ce qu'il oublie. Lui, il croit qu'on a gagné pour lui. Non, quand vous lisez le texte, vous savez comment ils ont gagné? C'est un coup d'audace de qui? Jonathan. C'est à cause de Jonathan qu'ils ont gagné. Mais est-ce que Saül, lui, il va penser que c'est à cause de Jonathan? C'est lui le roi. Donc et beaucoup de choses de bien nous arrivent. C'est peut-être à cause de ton frère qui prie. C'est peut-être à cause des frères et sœurs qui prient pour toi. Mais toi, tu es déjà sur le chemin de la mort. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que la vie continue. Tu continues à acheter une voiture, tu continues à acheter des chaussures, tu continues à faire. Mais en réalité, toutes les occasions que Dieu t'a données pour vivre par la foi, tu les as bafouées, tu les as rejetées. Tu as préféré vivre par la chair, tu as préféré vivre par ton intelligence, tu as préféré toucher au lieu de croire. Ben, sache que... Et en toi, tu n'es pas totalement bien parce que tu sens qu'il y a ta chair qui a agi dans tout ça. Mais comme je l'ai dit, la vie continue. Il y a chaque jour, tu manges la nourriture, tu sors le matin, tu reviens, il n'y a pas eu d'accident. Et tu penses que, oh, pourquoi pas des petits écarts comme ça, des petites résistances à Dieu. Mais c'est la mort. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu es en train de mourir, mon frère, ma soeur. Tu es en train de mourir parce que ce n'est plus la foi qui te fait fonctionner. C'est parce que tu es dans des méthodes, tu es dans des systèmes, tu fais des choses, tu t'accroches à un humain. Tu t'accroches à un humain. Tu t'accroches à une salle. Tu t'accroches aux apparences, mais il n'y a pas la vraie foi en Dieu. Tu es en train de mourir. Les choses semblent marcher, mais ce n'est qu'une apparence. Parce que malgré la victoire, qu'est-ce que Samuel a dit à Saül? C'est fini, Dieu a retiré ta royauté. Mais il est resté toujours roi. Pendant longtemps, il n'a pas cessé d'être roi en deux jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu Goliath, Saül a eu peur. Parce que quand maintenant tu ne réponds pas par la foi à toutes les occasions que Dieu t'offre dans la vie, quand viendra un vrai problème, tu n'auras pas non plus la foi. Les gens attendent de manifester la foi devant des grands problèmes. Et quand les grands problèmes arrivent, ils n'ont plus la foi parce que devant les petites situations où Dieu réclamait la foi, ils n'ont pas voulu, Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Ils ont préféré toucher, ils ont préféré bricoler, ils ont préféré arranger en leur sauce. Ils ont préféré manipuler, ils ont préféré réagir par la chair et non par la foi. Compter sur Dieu, ils n'ont pas voulu. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Vous vous souvenez du passage 30-15. C'est par la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est par le calme et la confiance que sera votre force. Mais comment finit le verset? Mais vous ne l'avez pas voulu. Les hommes ne veulent pas attendre que Dieu agisse. Ils ne veulent pas comme Saül. Il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu. Il lui-même dit, je me suis fait violence. Oui, donc il reconnaît qu'il a forcé les choses. Et les hommes veulent forcer, manipuler, arranger, trafiquer, s'imposer. Et tout en se créant leur propre religion, tout en se créant leur propre façon de faire, en justifiant par certains versets bibliques. Mais au-dedans d'eux, ils savent que c'est comme ça. Voilà. Et, bien-aimés, quand maintenant vient le grand problème, Dieu n'est pas avec toi. Tu essaies d'avoir la foi, il n'y a pas. Parce que Dieu te demandait la foi tous les jours, tu refusais. Tu veux que juste quand il y a un grand problème que tu aies la foi, il n'y a pas la foi. Tout se construit. Mais David, comme lui, vous savez, David explique comment il arrive à triompher de Goliath. Il a donné l'explication. Il a dit, quand c'était face au lion, j'ai manifesté la foi. Quand c'était face à l'ours, j'ai manifesté la foi. Puisqu'il faut savoir que ces deux animaux-là étaient moins dangereux que Goliath. Hein. Goliath, c'est plus de 2,60 m. Plus de 2,60 m. Un guerrier, ce n'est pas comme un animal. Un animal n'est pas très intelligent. Mais Goliath, c'est et la taille et l'expérience du guerrier, tout dedans. Il dit, mais quand c'était les animaux, j'ai manifesté la foi. Eh bien, maintenant, devant Goliath, je vais encore manifester la foi. Mais les autres qui n'ont jamais vécu par la foi dans leur vie, face à Goliath, eh bien, c'était la poudre d'escampette. Il faisait des cris de guerre. C'est ça la propre religion. On fait des cris de guerre. Jésus est vivant, il est victorieux. Mais quand la situation vient, poudre de scampette. Mais à l'église, on marche. Mais c'est avant que Goliath ne paraisse, les soldats, quand vous lisez l'histoire, ils faisaient des danses. Israël va vaincre. Dès que Goliath sort, tout le monde fuit. Mais c'est qui? Mais personne ne se lève. Mais David, lui, n'a pas fait des danses compliquées. C'est quelqu'un qui marchait tous les jours par la foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était son berger, Dieu. Chaque jour. Et donc face à Goliath, il a dit, mais je vais appliquer la même, le même système. Mais toi qui n'appliques pas la foi, tu penses que ça va venir juste au moment du grand problème? Non. C'est là que les compromis viennent. Et j'ai souvent dit que les compromis viennent le moment des grands événements. Mariage, naissance, deuil, c'est là qu'on voit les chrétiens changer. Devant le boulot, les grands événements, c'est là qu'on voit un vrai chrétien ou un faux chrétien. Parce que le faux chrétien va dire, ou bien le chrétien tiède, pour ne pas blesser certaines personnes, le chrétien tiède va dire, ah, on n'a pas le choix. Dieu nous comprendra. Donc il s'est créé lui-même sa propre religion. Le chrétien tiède va dire, ah, on suit les prédications depuis longtemps, mais Dieu ne fait toujours pas. Ah, bon. Il ne fait plus de commentaires, mais il se lance tranquillement dans la voie de la désobéissance. Mais le vrai chrétien va dire, il va dire, bon, on me coupe la tête, mais je garde Jésus. Ah! Je perds le boulot, mais je garde Jésus. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien va dire, ah, si mon mari ou ma femme doit me quitter, c'est Jésus qui s'occupera de tout ça. Mais moi, je garde Jésus. On ne va pas m'entraîner dans le compromis pour garder un homme, ni garder une femme. Il y a des gens qui disent, ah, ça fait 20 ans quand même. Oh, bien-aimé, ça fait 20 ans que tu es marié, mais est-ce que ça doit dépasser Jésus? Non. Il y en a qui vont dire, ah, j'ai 42 ans. Il y a une occasion qui se présente comme ça. Mais oui, mais est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Il y a des gens qui vont faire, compromis. Parce que dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas manifesté la foi. Il faut chaque jour vivre par la foi. Chaque jour. Mauvaise nouvelle, tu dis, ah, Dieu veut faire un miracle. Ce n'est pas par imitation du pasteur, c'est écrit dans Psaume 112, 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais quand tu veux te comporter comme ça, il y a des gens qui disent, tu es irresponsable. Tu ne vois pas ce que... Oh. Mais j'ai vu, mais Dieu a dit dans Psaume 112, 7, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il y a même quelqu'un qui s'est dit pasteur, il a dit, ne me citez plus la Bible, parce qu'il a compris que lui et la Bible, ça n'allait pas ensemble. Mais pourtant, il s'est dit pasteur. Il dit au frère qui lui dit, mais pasteur, la Bible dit ceci, il dit, ne me cite plus la Bible. Oh. Mais toi, un pasteur, tu dis, on ne me cite plus la Bible. Parce qu'il a compris que cette Bible-là est exagérée. Mais ce n'est pas de l'exagération, c'est la vérité. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Les amis de Daniel, ils étaient là. Vous savez, vous êtes là, il y a peut-être 500 soldats autour de vous. Et puis les plus grands costauds des soldats sont là, les 30 ou 40 autour de vous. Vous ne savez par quel moyen vous échappez. Et le roi en face, il dit, prosternez-vous. Ils ont dit, ben on ne se prosterne pas. Ah, petit, vous ne savez pas que moi, ils disent, mais roi, nous n'avons pas à discuter. Notre Dieu nous délivrera. Mais le roi dit, mais réfléchissez, mais regardez vous-même la configuration. Ils disent, mais d'accord, même s'il ne nous délivre pas, nous savons que c'est le seul Dieu. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, les gens veulent glorifier Dieu. Quand ça marche, quand ça marche, le voleur à la croix, lui, l'a glorifié alors que le monsieur était à la croix comme lui. Comment peux-tu choisir un Dieu qui est... quelqu'un qui se dit fils de Dieu, il est crucifié, tu le choisis. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous, nous voulons élever Dieu que quand on a des bonnes nouvelles. Mais il y a les vrais serviteurs du Seigneur ont glorifié Dieu au moment de la difficulté. Vous savez, les apôtres n'ont pas bien avalé, je ne dis pas qu'ils ont perdu la foi, mais ils n'ont pas bien avalé la crucifixion. C'est pourquoi quand on leur a dit qu'il est ressuscité, est-ce qu'ils ont cru? Non! Parce que quand tu n'as pas accepté la crucifixion, tu ne croiras pas non plus à la résurrection. Tu auras le même problème. Les gens pensent qu'ils auront la foi quand ça va bien marcher, c'est faux. Quand, dans les difficultés, tu n'as pas honoré le Seigneur, même quand tu auras, tu ne l'honoreras pas. Ça ne sera qu'une apparence. En fait, c'est ta propre joie d'avoir, de réussir, que tu manifestes en glorifiant Dieu. Mais ce n'est pas la joie profonde où de Paul qui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est une puissance pour le salut de quiconque. Ça, c'est une joie profonde. Pour Dieu lui-même, il dit « Mais Dieu nous a facilité les choses ». Il est content. Mais toi, tu vas être content de ce que tu as maintenant, mais en citant le nom du Seigneur. Parce que dans les difficultés, tu ne l'as pas glorifié. Tu l'as considéré comme perdant. Alors que Dieu existe avant toi et il existera après toi. Donc, il ne peut pas dépendre de ta situation pour être glorifié. Il ne peut pas dépendre de sa situation pour être considéré comme Dieu. Il est Dieu. Un point, c'est tout. Toi, tu n'es moins qu'une poussière dans l'univers. Ce n'est pas à cause de toi que lui va cesser d'être Dieu. C'est la perte de la foi. La perte de la foi tuera beaucoup de personnes. Vous pensez que ces gens-là qui ont prêché Jésus, qui ont prêché l'évangile, qui finissent par faire ce qu'on voit là, qui finissent par demander les offrandes à tout va, qui finissent par créer de fausses théories de prospérité, c'est parce qu'ils ont perdu la foi. Ils s'inventent des moyens de gagner de l'argent, puisqu'ils n'ont plus la foi que Dieu peut donner. La perte de la foi tuera la vie spirituelle. La perte de la foi te créera tes propres cérémonies, tes propres choses, parce que tu ne crois plus en simplement que Dieu est tout-puissant pour agir. Le juste vivra par la foi. Beaucoup de chutes spirituelles sont dues au fait que les gens n'ont pas la foi. Vous savez, il y a des gens qui manifestent des remords quand ils ont péché. Remords sur remords, mais quand tu vérifies bien les remords, c'est la honte d'avoir péché qui dépasse en réalité la tristesse qui amène la repentance. La Bible est d'accord qu'on soit triste par rapport à nos péchés. Mais quand on sait que Christ, hein, 1 Jean 1,9, son sang peut nous purifier de notre péché. Mais on se laisse purifier et on saute de joie. Mais pourquoi, alors qu'il y a cette possibilité-là, tu continues à murmurer contre toi-même pour un péché que tu as commis? Ça veut dire quelque part, tu n'es pas content de toi. Tu aurais aimé être un costaud et voyant que tu as échoué, tu es mécontent. C'est ce mécontentement-là que tu continues à traîner. Les gens disent, mais pasteur, ça peut encourager les gens à pécher. Non, c'est pas ça, c'est la vérité que Christ est mort à la croix. Vous savez c'est quoi la souffrance d'un père de voir son fils être crucifié? Et maintenant, il a fait ça pourquoi? Pour le pardon des péchés. Et maintenant que quelqu'un de pécheur demande pardon, pourquoi nous, on va trouver que c'est encourager les péchés? Mais Christ est mort, pourquoi la croix? Donc les gens qui continuent à traîner, à se culpabiliser, à longueur de journée, à longueur de mois, alors que 1 Jean 1, 9 est là, c'est des gens qui sont orgueilleux, qui veulent se constituer leur propre religion de salut personnel. Et ces gens-là vont être méchants envers les autres. Ils vont les trouver pécheurs, mauvais. C'est ce que dans Luc 13, ce pharisien-là était en train de dire, je ne suis pas comme celui-là. C'est un péager, un escroc. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je donne ma dîme. Voilà. C'est des gens qui veulent se sauver par eux-mêmes, qui finissent par détester les autres, trouver les autres faibles, qui ne sont pas au point. Mais est-ce que toi, tu es au point? Dieu seul est au point. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi pour dépendre de lui et vivre par sa vie à lui. Le juste vivra par la foi. Beaucoup de gens tombent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la foi. Et vous savez, quand tu gardes ces remords-là, tu te rends compte que tu retombes dans les mêmes péchés toujours. Même péché parce que tu n'as pas encore accepté le pardon du Seigneur gratuit. Tu veux un pardon payant et tu vas tomber toujours dans le même péché. Et le discours régulier qu'on entend, c'est quoi? C'est « Ah, oh, mais c'est trop facile, j'ai péché hier et avant-hier, et pasteur, tu veux juste que je demande pardon ?» Mais ce n'est pas toi qui as créé tout ça, c'est Dieu qui a permis que tu sois pardonné. Pourquoi tu commences à créer des théories comme quoi c'est trop facile? Ce n'est pas trop facile parce que Christ a souffert à la croix pour ça, ce n'est pas trop facile. Ça a été difficile pour lui, mais c'est facile pour toi par l'amour de Dieu. Revenons à la simplicité de la foi et vivons par la foi, bien-aimés. La foi ira contre nos raisonnements. La foi ira contre ce que nous voyons. Mais c'est normal, parce que c'est la foi en Dieu Tout-Puissant qui dépasse ce qu'on imagine. En Dieu Tout-Puissant qui a produit les choses visibles par les choses invisibles. Tous les jours, marchons par la foi. Concernant notre avenir, concernant le loyer, concernant tout, marchons par la foi. Concernant la maladie, marchons par la foi. Rappelons-nous de cela, bien-aimés. C'est notre recherche de sécurité personnelle, humaine, qui éloigne Dieu de nous, qui tue notre foi. Et devant les grandes situations, nous n'avons pas la foi. Revenons à la simplicité de l'Évangile, au nom de Jésus-Christ. Et nous vivrons et nous ferons des exploits. Parce que David a fait des exploits parce qu'il marchait chaque jour dans la foi. Et nous aussi, nous ferons des exploits. Ça demande, bien-aimé, la foi demande des prises de risques. On veut vivre par la foi sans prise de risques. Tous les exemples de la Bible où Dieu élève les gens par la foi, derrière ça, il y a des prises de risques. Quand il élève Abraham, père de la foi, parce qu'il y a eu une prise de risque, il a quitté sa patrie où il était bien, va là où je te t'envoie. On lui a demandé de tuer son fils. Il a voulu le faire, des prises de risque. C'est comme ça qu'on l'appelle le père de la foi. Moïse a accepté d'aller sans armes, sans armée extraordinaire, aller dire juste à Pharaon, un méchant homme, laisse aller mon peuple. C'est une prise de risque parce qu'il pouvait être tué à l'instant même. La foi ne fonctionne pas sans les risques. Ça va ensemble, puisque sinon il n'y a pas la foi. Là où il y a la sécurité, il n'y a pas la foi. C'est normal. Je ne demande pas qu'on se crée des risques. Dieu va nous créer tout ça lui-même. David n'a pas cherché l'ours ni le lion. Ils sont venus et il a combattu par la foi. Il n'a pas cherché Goliath, il est venu, il a combattu. Notre marche sera ainsi, afin qu'on vive. Dieu permettra afin qu'on vive, parce qu'il sait que la vie vient de la foi. Donc il va envoyer les choses qui vont créer la foi, les épreuves, les oppositions entre le visible et sa parole, afin que nous restions sur sa parole pour produire des choses visibles par les choses invisibles. Et ainsi nous vivrons. Sans prise de risque, il n'y a pas la foi. Noé, 100 ans de construction de l'arche, c'est de la folie. Mais c'est comme ça qu'il a été sauvé. Prise de risque. On se moque de toi pendant des années. Nous, on veut la foi sans risque. Tout est bon, le compte est bon. Maintenant, là, je peux donner. Mais non. Là, maintenant, je peux oser. Non. C'est... Jésus a envoyé ses disciples les poches vides. Il a dit, même votre propre argent ne prenez pas. Dieu s'occupera. Prise de risque. Mais je ne dis pas prise de risque inventée personnellement. Prise de risque suscitée par Dieu. C'est clair. Donc le chrétien, lui, son travail, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Quand le Seigneur dit quelque chose, il se dit, bon, risque ou pas, c'est la foi. J'y vais, Dieu s'occupera. Le juste vivra par la foi. C'est être à l'écoute. C'est tout. Mais vouloir la foi sans prise de risque, ça ne conduira qu'à la mort. Qu'à la mort. Nous, on a été dans des endroits où, après le culte, on compte le nombre d'enfants, le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Pourquoi tout ça? Parce que l'homme veut se rassurer. Combien il y a eu de personnes? Mais la Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont réunis, je suis là. Mais au contraire, les gens qui sont deux ou trois, doivent, c'est ça que l'homme n'aime pas. Dieu te rend fort. Dieu dit là où deux ou trois, je suis là. Maintenant, il dit en même temps, là où il y a mille, je suis là aussi. Qui doit être le plus content entre les mille et vous, les deux, les trois? C'est vous. À trois seulement, Dieu vient chez vous. Là-bas, à mille, le même Dieu vient. Qui est le plus content? C'est vous. Mais malheureusement, c'est les hommes, vous voyez, le frère Intel n'est pas venu. Hein. parce qu'ils se retrouvent, ils sont 15 ce jour-là. Ils sont 7. Ah, lui aussi, il aime trop la paresse. Mais pourquoi? Parce que le nombre. Au lieu de dire, oh, on était 3, Dieu était là. Mais parce qu'ils ne l'ont pas vu avec les yeux. Mais il est là. Lui, il dit que je suis là. Il me dit, oh, vous savez, moi, j'aime tellement les pauvres et les faibles que j'aime Dieu à cause de ça. J'ai dit, c'est le Dieu des faibles. Pourquoi Paul est dans la joie? Paul s'est rendu compte qu'il était faible. C'est pourquoi il était dans la joie de Romains 1, 16, 17. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les faibles. Mais les gens qui se croient forts, ils n'aiment pas l'évangile. Ils veulent tout gérer, ils veulent s'assurer des choses. Mais vous allez me dire, mais tout le monde est faible, mais tout le monde ne se croit pas faible. Tout le monde est faible, mais tout le monde ne se croit pas faible. Les hommes veulent construire leur propre force. Et c'est à cause de ça que ça va en opposition avec la foi. Ils veulent se construire une sécurité financière, une sécurité matérielle, une sécurité du travail, toutes sortes de sécurités pour être soi-même fort, pour éviter d'être faible. Mais notre frère Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, maintenant je me réjouis de quoi? Quand je suis faible. Car lorsque je suis faible, la puissance de Dieu se manifeste. Voilà. On est 4 dans la prière, 3 dans l'église. Mais c'est nous qui devons être les plus contents. Puisqu'à 3, on attire le Dieu Tout-Puissant. À 3. Moi, je vois des bien-aimés. Ah, bon. Pendant qu'on prie, ils regardent là-bas si la porte ne s'ouvre pas. Parce que le nombre, au lieu de penser que Dieu est Tout-Puissant, il fait son travail pendant que je prie. Dieu est en train de travailler. Pendant qu'on est 2 à 3, il est en train de travailler. Voyez, vous savez, ce qui est malheureux, c'est que la Bible est remplie d'exemples. Je vous ai dit, bon, Dieu sera quand même bon envers les sauvés, mais je vous ai dit que les gens qui iront en enfer, Dieu leur parlera avec colère. Donc, il leur montrera, il va leur dire la chose suivante, il va dire, quand David a battu Goliath, il était avec qui? Il était seul. Il y avait combien de soldats face à l'armée des Philistins? Des milliers. Est-ce qu'ils ont pu vaincre Goliath? Non. Pourquoi toi, vous vouliez être nombreux pour me suivre? Vous n'avez pas vu le risque qu'a pris mon serviteur David? Et je lui ai fait prendre ce risque pour vous enseigner, vous. Et l'apôtre Paul dit dans Hébreux 11, le monde n'a pas mérité ces gens-là. Parce que malgré tout ce que Dieu a fait comme effort en produisant des serviteurs qui montrent l'exemple, les gens ne suivent pas ces exemples-là. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux 11, le monde n'a pas mérité ces gens-là. Parce qu'ils ne suivent pas ces gens-là. Quand Moïse se retrouve devant la mer Rouge, est-ce que toi tu as connu un problème de ce niveau-là? Où tu dis aux familles, allez, suivez-moi. Les gens quittent leur maison. Ils quittent tout. Et tu les entraînes et vous vous retrouvez face à la mer Rouge. Et toi, tu as connu déjà un problème comme ça. Alors, qu'est-ce que tu diras à Dieu le dernier jour? Il te montrera Moïse. C'est pourquoi on cite tous leurs noms dans Hébreux 11. Je ne peux pas m'empêcher de finir cette prédication sans parler d'eux, sans lire leur exemple. Et Hébreux 11 nous dit, ben voilà, on vous donne tous ces exemples. Un jour, n'osez pas lever le doigt pour dire, mais c'était difficile. Mais Dieu vous dira, bien, c'était plus difficile que Moïse devant la mer Rouge. C'est ça. Voilà. C'est ce que Dieu te dira. Un jour, j'ai dit au bien-aimé, qu'est-ce qu'on risque de plus? Peut-être la prison avec notre foi. On n'est même pas dans le cas des chrétiens qui ont amené manger, les lions manger. Aujourd'hui, à notre époque, ici en France, on risque quoi? Mais les gens ne veulent pas vivre par la foi. Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à un Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Même s'il ne voyait pas Dieu, Caïn a fait un peu de bricolage, on ne le voit même pas, bon, je vais sacrifier un truc grand, je vais faire au milieu, voilà. Mais Abel s'est dit, je ne le vois pas, mais il existe, sinon moi je ne serai pas là. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Bien-aimé, il n'y a pas de foi si on ne pense pas à l'éternité. Je disais à quelqu'un dernièrement au téléphone, mais rends-toi compte, ça fait des siècles et des siècles que nous croyons en Jésus. Mais quel est le résultat? C'est les païens qui restent les plus riches. C'est les païens qui ont les plus belles maisons. Le nombre de chrétiens est toujours ultra minoritaire. Ça donne envie de dire quoi? Ah, ne faut-il pas essayer autre chose? Mais nous savons au fond de nous que c'est Jésus qui est la vérité. Nous savons, comme le voleur à la croix, que le monsieur qui est crucifié à côté, c'est lui la vérité. Mais alors, comment expliquer cette apparence d'échec? Parce que la foi vient du cœur, touche le cœur. Tout ce qui est apparence va impressionner. Je vous ai raconté, quand je fais certains voyages, beaucoup de gens vont venir à la réunion. Et quand je m'en vais, et qu'ils restent avec le frère qui était sur place, ils ne viennent pratiquement plus. Donc ces gens-là, ils ne croyaient pas en Dieu, ils ont suivi un homme. Ils n'ont pas suivi Dieu. Parce que s'ils avaient suivi Dieu, même si moi j'étais parti, ils seraient restés, venir chercher Dieu. Donc leur foi est 50-50, 50 sur un homme, 50 sur Dieu. Ce n'est pas encore vraiment sur Dieu. Donc imaginez que Dieu commence à donner des millions aux chrétiens. Tout le monde va devenir chrétien sans que le cœur soit changé. Voilà. Dieu veut que le cœur change. C'est pourquoi il vient d'une manière discrète, que seuls ceux qui sont humbles, qui veulent une vie différente, la vie du ciel, trouve le salut. Amen. C'est pourquoi nous semblons toujours dans la défaite, afin que les faibles seuls soient sauvés. C'est pourquoi nous semblons toujours pauvres, afin que seuls les faibles, parce que Dieu ne vient pas sauver les forts, il vient sauver les faibles. Mais les forts cherchent quelque chose qui va leur donner la force, qui va leur donner la primauté sur les autres, être le plus beau, le plus fort, le mieux habillé, le plus riche, celui qui a le plus de voitures que les autres. Mais les faibles veulent juste être sauvés. Juste être sauvé. Vous savez, quand on a faim, on a juste envie de manger, quoi. C'est la même chose. Et donc, malgré le fait que ça fait des années, on parle de Dieu, mais nous sommes toujours les plus minoritaires. Nous paraissons être les plus faibles. La vérité se trouve en nous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été comme Jésus. La vérité, ce n'est pas nous, c'est notre Seigneur Jésus. Il a dit dans Jean 8, 46, « Qui va me convaincre de péché ?» Voilà. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui a vaincu la mort. Qui d'autre a fait cela? Donc notre force, ce n'est pas notre nombre, nos richesses, mais c'est Jésus. Notre force, c'est qu'un jour nous irons au ciel, où ce qui apparemment nous donne la défaite, tout cela va changer, parce qu'au ciel, c'est nous qui serons dans le sein avec Abraham. Quand le riche et Lazare sont morts, les choses ont changé. C'est le Lazare qui était dans la richesse. Lui était dans la pauvreté. Tout ça, c'est ça qui anime aussi notre foi. Et il dit ceci au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc notre foi est dans une projection éternelle. Ce n'est pas une histoire seulement de maintenant, c'est une projection éternelle. Verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » C'est vrai. Nous, aujourd'hui, même si on me donnait, on était avec les frères en train de manger hier, je dis, mais aujourd'hui, si même on nous donne toutes les voitures du monde, un jour on va mourir. C'est rien du tout. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Et ceux qui parlent ainsi, ils veulent une vraie patrie où ils vont être éternellement riches, éternellement puissants, éternellement bons, éternellement corrects. C'est ça qu'ils cherchent, c'est ça que le vrai chrétien cherche. Ils cherchent un endroit où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de gens qui souffrent. Un endroit éternel. Ils ne veulent pas se contenter des choses de la terre qui sont de passage. C'est ça qui anime leur foi et c'est pourquoi ils préfèrent la mort plutôt que changer. Verset 17, 16, 15 plutôt. S'ils avaient en vue une... celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration de la résurrection de Jésus. C'est moi qui rajoute. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il l'adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Voilà encore quelqu'un qui a échoué par manque de foi. Il s'est dit, mais le droit d'aînesse, ça va me donner quoi? Il y a des gens qui disent... J'ai oublié le terme qu'on dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va donner l'argent, cette affaire? Voilà. Donc, quand quelque chose ne va pas être... Est-ce que ça va donner l'argent, ça? Donc, il se dit, mais le droit de naître, c'est quoi? C'est un truc de le vide. C'est soi-même. On construit sa vie soi-même. Ah! D'accord, Jacob a pris le droit de naître. Il a vendu le droit de naître par les lentilles. Or, dans le droit de naître, il y a des promesses. Mais lui, il s'est dit, ça va faire quoi, le droit de naître? C'est des paroles, ça. Et beaucoup de gens sont la Bible, c'est des paroles. D'accord, mais c'est la parole de Dieu. Et il a méprisé le droit d'aînesse. 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Voilà. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Donc tous ces gens-là n'ont pas obtenu afin qu'ils obtiennent tout ça en même temps que nous. Donc Dieu, à cause de nous, il a fait souffrir toutes ces personnes-là afin que nous, nous ayons une foi qui va permettre de produire de plus grandes choses, mais ce que nous ne faisons pas, malheureusement. Repentons-nous et revenons dans la vie de foi de chaque jour afin que notre Dieu soit honoré, comme c'est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Pourquoi nous venons prier? Pourquoi nous venons chanter? Donc c'est pour... nous témoignons que Dieu existe, nous devons le montrer dans la vie de tous les jours. Que Dieu existe et il s'occupe de nous. C'est ça la vraie foi. Tu dois croire que Dieu s'occupera de toi. C'est ce que ça veut dire, parce que le terme français, on peut dire le rémunérateur, ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu va s'occuper de lui. Voilà. Tu dois être dans cette attente-là. Que Dieu s'occupe de toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons négligé le marché par la foi, Seigneur. Pour toutes les fois que nous avons fui devant les Goliaths, devant les ours, devant les lions de la vie. Pour toutes les fois où, face à des défaites, face à des montagnes, nous nous sommes dit « Ah !» Ah, et sans suite, au lieu de dire « Ah » et puis crier, comme il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. On n'a même pas crié, considérant notre défaite par avance. Oh Seigneur, apprends-nous à crier, apprends-nous à invoquer ton nom, Seigneur. Malgré quand nous nous sentons la force de la défaite, mais que ça ne nous empêche pas de crier à toi, d'invoquer ton saint nom, Seigneur. Car il est dit que tu es tout puissant. C'est toi qui produis les choses visibles par les choses invisibles. Seigneur, aide-nous à être à ton écoute afin d'accomplir les exploits qui sont prévus pour chacun d'entre nous. Afin que réellement le faible dise qu'il est fort par ce que tu vas accomplir. Aide-nous à ne pas faire de la manipulation, des arrangements personnels pour obtenir les choses. Aide-nous à nous attendre à toi, Seigneur. Aide-nous à être dans ta vision à toi des choses, la vision de l'éternité, pas seulement la vision terrestre. Aide-nous à comprendre que tu es plus puissant que les rois de la terre. Tu es plus puissant que les magiciens de la terre. Aide-nous à vivre dans cette logique-là, Seigneur, à ne pas fuir devant Goliath, comme beaucoup ont tremblé, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous voulons prier avec foi. Et la prière que nous venons de faire, Seigneur, nous croyons que tu as entendu cela, Seigneur. Et nous pensons que les choses vont changer dans nos vies.